Midi et demi sur France Culture. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 1,5 million de personnes pauvres accueillies l'an dernier par le Secours catholique, dont près de la moitié sont des enfants, précision d'Anne-Laure Chouin dans un instant. L'Assemblée vote la baisse du budget de la mission Travail et Emploi. Le nombre des emplois aidés serait réduit de moitié. La ministre du Travail parle d'un budget de transformation suivi d'Annabelle Grelier. Donald Trump dévoile à Pékin une série d'accords commerciaux avec la Chine qui dépasse 250 milliards de dollars. Correspondance à Pékin avec Dominique André. Au lendemain d'une grève de protestation en Catalogne, des responsables indépendantistes sont entendus en ce moment par la justice espagnole qui pourrait les placer en détention. Pour avoir déclaré l'indépendance de la région, on sera en ligne pour en parler avec Sébastien Berriot. À Bruxelles, les États membres de l'Union européenne n'ont toujours pas réussi à s'accorder ce matin sur un renouvellement de la licence du glyphosate. Précision à Bruxelles donc avec Lakshmi Lotha. Et puis la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, qui était sur France Culture ce matin, juge problématique cette décision de professeurs de français de cesser d'enseigner la règle de grammaire qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Analyse et relance du débat avec Camille Magnard, l'invité de la séquence interview, Émilie Cariou, qui est députée de La République En Marche de la Meuse. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour? C'est le titre de l'essai de notre invitée Valérie Chansigaud, essai qu'elle publie chez Actes Sud. Elle se demande pourquoi ce manque d'intérêt, pourquoi cette absence de sensibilité culturelle sur le sujet, celui de la nature et de l'environnement. Et pour ce faire, c'est un regard d'historienne qu'elle pose sur cette question. Elle va remonter le fil de nos lectures, des recherches scientifiques, de ce qu'on a pu voir à la télé et au cinéma pour comprendre pourquoi cette absence de sensibilité et comment faire surtout pour la retrouver. Rendez-vous à 12h55.
On commence donc par ce rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté en France publié ce matin. L'association a donc accueilli l'an dernier 1,5 million de personnes dont près de la moitié sont des enfants et la majorité d'entre eux vivent au sein de familles monoparentales. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc, c'est un rapport qui confirme que la pauvreté se développe dans notre pays et selon l'INSEE, il y a 9 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans notre pays, donc sous ce seuil de pauvreté.
Oui, et tout l'intérêt de ce rapport, c'est d'incarner ces chiffres, c'est d'opposer aux statistiques des situations et puis aussi de contredire un certain nombre de préjugés qui vont de « les pauvres font des enfants pour recevoir des aides » à « les étrangers viennent en France pour recevoir des aides ». Un travail d'utilité publique donc parce que d'abord les pauvres au sens statistique sont comptabilisés différemment selon les pays. Par exemple, la définition de la pauvreté aux États-Unis est bien plus réductrice qu'en Europe. Chez nous, est pauvre celui qui gagne un revenu inférieur à 50 ou 60% du revenu médian. Revenu médian fixé comme suit, la moitié de la population française gagne plus, l'autre moitié gagne moins. En France, ce revenu médian est de 1692 euros et pauvre, donc celui qui gagne après impôts et prestations sociales 846 ou 1014 euros. 14,3% de la population française est considérée comme pauvre. On approche, vous l'avez dit, des 9 millions de personnes. Un des taux, il faut le signaler, les plus bas d'Europe. Ce rapport du Secours catholique porte sur les personnes accueillis par l'association. Il dresse donc un portrait de l'évolution de la pauvreté dans une population déjà pauvre. Cette évolution est négative. Des populations qu'on voyait moins avant représentent désormais une part croissante des personnes aidées, les femmes seules avec enfants, les couples avec enfants, beaucoup plus d'enfants donc. Et puis les étrangers en situation d'extrême pauvreté. Enfin, la proportion des ménages accueillis par le Secours catholique qui n'ont aucune ressource est en augmentation, 1 sur 5. Autre élément parlant, beaucoup de personnes accueillies qui pourraient bénéficier d'allocations familiales ou RSA n'en bénéficient pas car ils ne savent pas qu'ils y ont droit ou n'en font pas la demande. 5,3 milliards d'euros de RSA par an ne sont ainsi jamais versés, ainsi que 800 millions d'euros de CMU et d'aide à des complémentaires santé.
Merci Anne-Laure Chouin. L'Assemblée a voté dans la nuit le budget en baisse de la mission Travail et Emploi. Principale mesure, donc réduction très sensible du nombre des emplois aidés. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, parle d'un budget de transformation qui vise donc, selon elle, à rompre avec une logique de traitement statistique du chômage. Les élus de droite comme de gauche dénoncent, je cite, la brutalité de cette réduction. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Une fois de plus, on a vu la nuit dernière à l'Assemblée la méthode Macron en marche.
C'est à travers, en effet, le vote du budget de l'État que la méthode Macron se dessine. D'abord, on pointe les défauts du système précédent. Les contrats aidés ne servent qu'à faire baisser les statistiques du chômage. Puis, on coupe le robinet des finances. Puis, on annonce une nouvelle mesure, des emplois francs, qui seront, eux, plus efficaces et moins coûteux. Une méthode qui, sur le papier, paraît, en effet, pragmatique, mais qui, dans la réalité, n'est quand même pas sans douleur, car passer de 490 000 emplois aidés fin 2016 à 200 000 en 2018, cela fait quand même beaucoup de gens qui vont rester sur le bord de la route. Alors qu'est-il prévu pour eux ? De la formation. Quand ? C'est la prochaine réforme sur le calendrier. Mais elle reste tout de même à venir et le contenu aujourd'hui est encore flou. Alors en attendant, que va-t-il se passer pour eux ? C'est bien là la question et l'inquiétude de l'opposition gauche et droite réunie, qui fustigeait évidemment ce matin la brutalité de la décision et du mépris de toutes ces femmes et ces hommes qui sont derrière les contrats aidés. Réponse de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On ne va pas s'envoyer à la figure que certains connaissent la réalité et que d'autres n'y connaissent rien. Ce n'est pas digne du débat national. Certes, mais ce qui serait digne du débat national serait sans doute de nous expliquer ce que vont devenir ceux qui ne sont pas des premiers de cordée. Car le problème dans notre société, et on ne peut pas se le cacher, est que l'on est très vite exclu du marché de l'emploi, mais qu'en revanche, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à se réinsérer.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. On salue l'invité de la séquence interview, Émilie Cariou. Bonjour.
Bonjour.
Vice-présidente de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Alors effectivement, qu'est-ce que deviennent ceux qui ne sont pas premiers de cordée ? Je repose la question posée par Annabelle.
Alors effectivement, il a été décidé de baisser le nombre d'emplois aidés. Donc les emplois aidés qui n'ont pas été renouvelés, ce sont essentiellement des emplois aidés qui étaient employés dans le secteur marchand, où là on a considéré que effectivement ça constitue un effet d'aubaine. Donc il en reste quand même 200 000 emplois aidés pour 2018. C'est pas négligeable et les priorités qui ont été fixées ciblent des urgences sanitaires et sociales, le handicap et des urgences.
Il y a quand même beaucoup d'associations qui vont perdre des emplois aidés qui ne sont pas forcément dans le secteur marchand au sens dur du terme.
Tout à fait. Ça dépend de leur activité à ces associations-là. Elles peuvent très bien s'insérer dans une des urgences sanitaires, sociales, handicap qui ont été fixées et aussi certaines zones territoriales. Notamment les territoires d'outre-mer sont prioritaires sur les autres territoires. Et puis au cœur de l'été, nous avons eu, nous parlementaires du groupe La République en marche, ce dialogue avec le gouvernement pour faire remonter la nécessité de maintenir les emplois aidés dans les zones rurales où le secteur associatif, où les collectivités locales font appel à ces emplois aidés et où surtout nous avons des publics extrêmement précarisés. Notamment, moi je viens d'une circonscription qui a vécu la désindustrialisation, récemment la démilitarisation. On le voit, on a eu une chute du revenu moyen par habitant. On a un taux de personnes au chômage sans aucun diplôme qui est supérieur à la moyenne nationale. Nous faisons partie aujourd'hui d'une zone prioritaire pour l'affectation d'emplois aidés. Et le préfet de région nous a réaffecté une centaine de contrats aidés à l'issue de ces discussions-là de cet été.
Merci beaucoup Émilie Cariou. On vous retrouve donc pour la séquence interview. Emmanuel Macron est proche de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'affirme en tout cas ce matin Carla Bruni, épouse de l'ancien chef de l'État, dans un entretien qu'elle accorde au Corriere della Sera. Le nouveau gouvernement et le nouveau président sont proches de mon mari, assure-t-elle, et il lui demande des conseils comme on le fait à des parrains. Fin de citation. La visite d'Emmanuel Macron maintenant dans les Émirats, après avoir inauguré le Louvre à Abu Dhabi, moyen, dit-il, de lutter contre l'obscurantisme, et après avoir repris la phrase de Dostoïevski dans L'Idiot, « La beauté sauvera le monde », le chef de l'État rend visite ce matin aux troupes françaises qui sont déployées à Abu Dhabi. Il évoque une victoire militaire totale contre l'État islamique en Irak et en Syrie dans les prochains mois, mais il avertit quand même que le combat n'est pas terminé. Emmanuel Macron.
Soldats, marins, aviateur, je veux saluer l'action des hommes et des femmes des armées françaises qui partout font reculer l'hydre terroriste et permettent de chasser les groupes barbares de leur fief. Vous ici et l'ensemble de nos soldats à quelques centaines de kilomètres d'ici, comme l'ensemble de nos forces spéciales. C'est ce que nous avons réalisé encore il y a quelques jours à Raqqa, cette ville d'où les attentats sur notre sol avaient été planifiés, organisés, dirigés. Presque 2 ans, jour pour jour, après ces attentats, nous avons gagné. Mais cette menace n'est pas la seule. Partout, nous assistons aussi au retour des rapports de force, à la tentation de militarisation des relations entre États, à la remise en cause des institutions et traités internationaux, à la contestation des espaces communs. Le défi qui nous est d'ores et déjà posé est d'y reconstruire la paix une fois que nous aurons gagné la guerre face à la barbarie.
Propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. J'ajoute que l'armée syrienne annonce ce matin avoir repris le contrôle total de la ville de Boukamal, qui est la dernière ville qui était encore aux mains du groupe djihadiste en Syrie. Le président américain est toujours à Pékin. Il dévoilait ce matin une série d'accords commerciaux pour plus de 250 milliards de dollars, secteur qui concerne l'énergie, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore l'électronique. Avalanche d'accords qualifiés par le ministre chinois du commerce de véritable miracle. Dominique André.
Quelle moisson d'accords commerciaux pour le président des États-Unis et ex-homme d'affaires. Donald Trump a obtenu de la part des Chinois ce qu'il était venu chercher, de quoi éponger une partie du déficit commercial américain en Chine. Cette salve d'accords concerne beaucoup de secteurs très différents, comme la vente de 300 avions par Boeing ou 43 milliards de dollars d'investissement chinois dans le gaz naturel en Alaska. Au passage, on relèvera cette pique contre ses prédécesseurs à la Maison-Blanche qui ont laissé grossir le déficit américain commercial en Chine pendant de longues années, a dénoncé Donald Trump. Médusé, la délégation chinoise a applaudi. Deux questions se posent maintenant. Ces accords seront-ils suivis de signatures fermes? Et quid du dossier sensible de la protection de la propriété intellectuelle et du transfert de technologies américaines imposées dans les contrats par les Chinois? Les entreprises américaines restent inquiètes. Donald Trump affiche en tout cas un grand sourire, ainsi que Xi Jinping, qui a obtenu, lui, de la part de son ami et rival américain, de faire profil bas sur la Corée du Nord, au moins sur cette étape chinoise. La suite de la tournée asiatique de Donald Trump réservera peut-être des surprises, le président américain adaptant son discours en fonction du pays qui le reçoit.
Voilà, prochaine étape du président américain au Vietnam puis aux Philippines. Madrid tente de judiciariser la crise catalane au lendemain d'une grève de protestation contre l'incarcération de dirigeants séparatistes. Des responsables indépendantistes étaient une nouvelle fois entendus ce matin par la justice, qui pourrait donc les placer en détention pour avoir déclaré l'indépendance de la région. En fait, il y a 6 députés, dont la présidente du Parlement, qui sont entendus par un juge d'instruction à Madrid. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui.
En principe, donc, il devrait être placé en détention. On l'a pas encore su, mais ça devrait être la logique.
Oui, effectivement, parce que Carme Forcadell, la présidente du Parlement, est depuis le début du processus d'indépendance l'un des moteurs du bras de fer avec Madrid. C'est elle qui a supervisé toutes les lois adoptées par le Parlement régional sur la préparation du référendum du 1er octobre, sur l'organisation de la transition et de la déconnexion avec l'Espagne. Fin octobre, c'est Carme Forcadell qui a officiellement proclamé l'indépendance après le vote des députés catalans, des faits considérés comme extrêmement graves par la justice espagnole. C'est pour cette raison que le parquet est en faveur d'une mise en détention provisoire, craignant, comme dans le cas de Carles Puigdemont, une fuite à l'étranger. La presse catalane estime ce matin que le juge devrait suivre l'avis du procureur, à moins que Carme Forcadell s'engage officiellement dans le bureau du magistrat à renoncer à prendre position en faveur de l'indépendance, ce qui permettrait peut-être une libération sous caution. Ce serait étonnant de la part d'une femme qui n'a jamais cédé ces derniers mois face à Madrid, même si Carme Forcadell a ouvert une porte il y a quelques jours en reconnaissant la dissolution de son Parlement. Réponse donc de la Cour suprême dans les prochaines minutes.
Encore un petit mot peut-être sur cette journée de grève hier qui a montré une certaine remobilisation de la base en Catalogne.
Oui, la base qui s'impatiente et qui a décidé de se mobiliser sur le terrain hier à l'occasion de la grève générale. Plusieurs centaines d'indépendantistes ont répondu à l'appel des comités de défense de la République. L'objectif, montrer que si la police régionale ne le fait pas, la population catalane, elle, a les moyens de contrôler ses frontières. Hier donc, les militants étaient présents sur quasiment tous les points de passage avec la France. L'autoroute AP7 entre la ville de Figueres et le territoire français est restée bloquée toute la journée. Les indépendantistes ont également bloqué les petites routes de montagne dans les Pyrénées, également la frontière entre la Catalogne et la principauté d'Andorre. Des indépendantistes très déterminés, à l'image de Franz, qui était présent, lui, sur l'autoroute AP7.
On est resté sur l'autoroute toute la journée. C'était vraiment important pour nous de bloquer les frontières de notre pays sur cet axe majeur. On voulait être présent aux frontières de notre Catalogne indépendante. Ça s'est fini vers 21h lorsque les Mossos d'Esquadre sont arrivés. Ils nous ont sortis un à un de l'autoroute. On a essayé de résister pacifiquement, mais on a dû partir.
Les comités de défense de la République catalane veulent aller au-delà de cette grève hier. Des assemblées générales sont prévues dans la journée pour décider ou pas de poursuivre le blocage aux frontières de la Catalogne.
Merci beaucoup, merci Sébastien Berriot. C'est encore raté. Les représentants des 28 membres, des États membres de l'Union européenne n'ont pas réussi à s'accorder ce matin sur un renouvellement de la licence du glyphosate. La proposition de la Commission qui proposait une reconduction pour 5 ans n'a pas réuni la majorité qualifiée requise. On est en ligne avec Lakshmi Lotha. Bonjour.
Bonjour.
La France est opposée à la mesure. On le sait qu'elle réclamait, elle, une reconduction pour 3 ans seulement. Donc pas d'accord à nouveau à Bruxelles sur cette question.
Oui, le vote des États membres a bien eu lieu cette fois-ci, mais la proposition de la Commission européenne n'a pas obtenu la majorité qualifiée nécessaire. La réunion du comité des experts s'est déroulée à huis clos ce matin. La France avait en effet déjà annoncé qu'elle ne voulait pas d'une réautorisation au-delà de 3 ans. 14 États membres ont toutefois voté pour la proposition de la Commission européenne.
Alors, qu'est-ce qui va se passer si rien ne se passe, si je puis dire, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord d'ici la fin de l'année ?
Eh bien, la Commission européenne va maintenant devoir convoquer un comité d'appel, toujours avec cette même proposition, d'ici la fin du mois. Il y a peu de chances que les votes des États membres changent d'ici 15 jours. Et s'il n'y a toujours pas de majorité qualifiée, la Commission a le droit ensuite de prendre la décision toute seule, décider donc de reconduire cette licence du glyphosate pour 5 ans. Mais pour l'instant, le commissaire à la Santé a déclaré qu'il ne souhaitait pas prendre cette responsabilité politique seule. On ne connaît toujours pas donc aujourd'hui l'avenir du glyphosate au sein de l'UE. Enfin, si personne ne veut prendre de décision avant le 15 décembre, la mise sur le marché du glyphosate expire. On parle alors d'un délai de grâce de 18 mois, 6 mois pour écouler les stocks et 12 mois pour les utiliser. Ensuite, le glyphosate ne sera plus utilisable ni commercialisable au sein de l'UE. Monsanto a déjà annoncé que dans ce cas de figure, l'entreprise porterait plainte contre l'UE pour inaction.
Lakshmi Lotha, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Bruxelles. On salue l'invité de la dernière partie, Valérie Chansigo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de ces questions d'environnement. Peut-être un commentaire sur cette incapacité de l'Europe.
Tôt ou tard, il y aura une interdiction du glyphosate. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, notamment à cause des Monsanto Papers qui a révélé que, de toute façon, l'expertise était passablement viciée à la base. Mais ce qu'il faut s'inquiéter, c'est qu'après le glyphosate, il y aura un autre épisode à ces histoires, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Si on regarde l'histoire du DDT, qui a commencé à être commercialisé en 1945, interdit en 1970, ça a été la première grande victoire contre ce type de pollution chimique. Ça n'a pas mis un terme, en fait, aux pesticides en général. Au contraire, ça...
Donc, ça veut dire qu'il y en a toujours qui reviennent, c'est
ça ? Il y en a toujours qui reviennent. Alors, et ceux qui...
Donc, c'est insoluble.
C'est insoluble pris de cette façon-là. C'est-à-dire que le problème du glyphosate ne se trouve pas dans la molécule du glyphosate. Elle se trouve dans... En fait, la structure sociale qui fait que le glyphosate a un sens pour toute une série d'acteurs.
Merci beaucoup Valérie Chansigo. On vous retrouve pour la dernière partie de la Grande Table.
Presque 12h50 sur France Culture, Antoine Mercier. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, invitée ce matin de France Culture, juge problématique la décision de certains professeurs de français de changer les règles d'accord des adjectifs.
Il y a une tribune parue dans le site slate.fr où 314 professeurs des écoles, collèges ou lycées déclarent avoir cessé ou s'apprêter à cesser d'enseigner la règle de grammaire qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Ils souhaitent par exemple que l'adjectif s'accorde en genre avec le nom commun le plus proche, des pâturages et des prairies verdoyantes et non verdoyants. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour à toutes et à tous.
Après l'écriture inclusive, voici donc la grammaire inclusive, évidemment un débat relancé.
Oui, un débat relancé, mais aussi une solution peut-être qui pourrait apporter un compromis. La grammaire inclusive, ce n'est pas l'écriture inclusive vue par l'Académie française, on le rappelle, comme un péril mortel pour notre langue. Avec la grammaire inclusive, pas d'adjectifs martyrisés, hachés par des points médians et des e.e.s disgracieux, non. Là, il s'agit d'appliquer, vous l'avez expliqué Antoine, un seul principe beaucoup plus simple, en finir avec la règle de la primauté du masculin, accorder l'adjectif quand il se rapporte à plusieurs substantifs masculins et féminins à celui qui est le plus proche. Ça donne les pays et les villes étrangères, par exemple, ou bien les hommes et les femmes sont belles. Forcément, ça froisse nos oreilles éduquées au masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais les partisans et partisanes de cette réforme rappellent que le principe de proximité s'appliquait déjà dans notre langue, comme dans le latin originel d'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle avec l'école rendue rendue obligatoire au 19e. Le principe, facile à enseigner, du masculin qui l'emporte sur le féminin a été généralisé. Et c'est donc bien lui qui est en cause aujourd'hui. Pour les défenseurs et défenseuses de la grammaire inclusive, on ne peut ignorer ce qu'induit cette règle scélérate dans les esprits d'enfants à qui elle est martelée dès l'âge de 7 ans, une intériorisation de la domination masculine. Et d'ailleurs, plutôt que de la mettre à bas, cette règle, dans tous les programmes scolaires, ce que les signataires du manifeste semblent vouloir, c'est plutôt la questionner avec leurs élèves, poser le débat sur ce masculin qui l'emporterait toujours sur le féminin, faire réfléchir les jeunes sur les rapports entre sexes, mais aussi, enfin, sur le rôle de l'éducation nationale dans la manière dont est façonné et dont peut être combattu le sexisme genré, ambiant et banalisé.
Merci Camille Magnard. Émilie Cariou, retour vers vous, députée de La République En Marche de la Meuse, vice-présidente de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bon, je ne vais pas vous interroger là-dessus, ou à moins que vous ayez quelque chose à dire sur cette grammaire inclusive.
Non, je n'ai pas grand-chose à dire, moi. Bon. Je serais plutôt d'avis de la ministre. Voilà. Honnêtement, je préfère concrètement que dans la vie réelle, les femmes soient traitées vraiment de manière équitable, plutôt que de polariser sur ce genre de débat.
Stéphane Robert.
Émilie Cariou, vous avez longtemps travaillé à Bercy, à la direction des vérifications nationales et internationales. Vous avez aussi travaillé à l'autorité des marchés financiers. Oui. On peut dire que vous connaissez bien les questions de finances internationales. On apprend aujourd'hui que Apple, la valorisation boursière d'Apple a encore franchi des records, 900 milliards de dollars. De notre côté, Bruno Le Maire, depuis le mois de septembre, hein, je crois, annonce qu'il veut taxer les GAFA, dont fait partie évidemment Apple. Alors, est-ce que c'est possible, quand on voit ce qui se passe avec les Paradise Papers, est-ce qu'ils se poussent pas un peu du col et du coup, est-ce que ce discours volontariste ne cache pas une forme d'impuissance politique?
Alors, ce problème des GAFA, on a commencé à le prendre réellement en compte à partir de 2012, quand la France a décidé de relancer les débats au sein de l'OCDE et de l'Union européenne, qui sont les deux grosses instances où vont se décider la future législation en matière de fiscalité internationale. Alors, le problème des GAFA, il est vraiment crucial parce que ces entreprises purement numériques, elles se sont fondées en ayant intégré dans leur fonctionnement l'optimisation fiscale, qui est particulièrement favorisée par le fait que leur activité est massivement dématérialisée. Alors, Apple a une activité très matérielle, elle vend des objets, et a aussi un chiffre d'affaires complètement numérique. Et on le voit aussi avec Google, on le voit avec Amazon. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté des États d'avancer. Très clairement, à ce qui s'est passé au niveau de l'OCDE, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis ont un peu stoppé les négociations, notamment sur un point crucial de ces négociations qui était de définir un établissement stable. Alors c'est quoi? C'est définir où j'ai un sujet d'impôt, où je peux dire que je vais imposer quelqu'un dans le monde.
Mais du coup, comment on fait?
Alors comment on fait? On travaille aussi avec l'Union européenne. C'est-à-dire que du coup, on a réorienté à l'époque les travaux, les autorités françaises ont relancé les travaux au niveau de l'Union européenne pour essayer d'asseoir l'objectif au niveau européen, c'est d'essayer d'avoir une assiette fiscale commune pour toutes les filiales d'un groupe au niveau européen. Voilà. Déjà, on mettrait fin à un certain nombre de mécanismes d'optimisation parce que, honnêtement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement faire partir des capitaux ou des flux financiers ou des produits, des revenus directement vers les paradis fiscaux. Donc, comment elles font ces entreprises-là qui font du commerce en France? Elles passent par des États qu'on a qualifiés, que l'OCDE a qualifiés d'États-tunnels, qui sont des quasi-paradis fiscaux au sein de l'Europe, qui sont l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc,
du coup, taxer au niveau national ce que propose Bruno Le Maire, c'est pas possible.
Non, mais ce qu'il propose, lui, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires au niveau européen. Et c'est quelque chose qu'il a porté au dernier conseil des ministres de l'économie et des finances européens.
Mais si déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'Europe, ce qui est une
unification... Ah oui, mais là, de toute façon, il y a une pression qui s'exerce de plus en plus fortement sur la plupart des États. Par exemple, l'Irlande a déjà mis fin à un régime qui permettait à des entreprises d'avoir une double nationalité, et irlandaise et bermudéenne. Voilà. Donc ça, elle y a mis fin suite au scandale multiple autour de Google.
Vous parliez des paradis fiscaux. On a une liste en France. C'est très peu de pays. Il y en a 6 ou 7. Oui. Comment ça se fait que Jersey, les îles Vierges britanniques, Bermudes, ne sont pas sur cette liste des paradis fiscaux, alors qu'elles sont, on le voit aujourd'hui, largement utilisées par les multinationales pour planquer leur argent?
Alors ça, c'est un point crucial que vous soulevez. C'est-à-dire que moi, j'ai interpellé le gouvernement avant-hier dans l'hémicycle en disant quand est-ce qu'on sortira la nouvelle liste des paradis fiscaux. Là, il y a 20 ans, on avait 50-60 États sur une liste qui était établie par l'administration fiscale française. Aujourd'hui, on se réfère à des listes qui sont qui sont édités par l'OCDE. Et les critères ont changé, c'est-à-dire que maintenant on parle d'État tiers non coopératif, c'est-à-dire qui est-ce qui a signé des conventions d'échange d'informations entre administrations fiscales, entre autorités financières d'un État à l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de ces États-là ont conclu des conventions entre eux et ils sont sortis des listes des paradis fiscaux. De toutes les manières, on a beaucoup avancé ces dernières années sur des réglementations de transparence, savoir où partent les flux, où partent les capitaux. Donc ça, c'est très bien. Mais ça ne vous dit pas si vous avez le droit d'imposer ou pas. Donc là, l'OCDE a avancé des nouveaux textes qui vont changer un certain nombre de choses dans des sujets qui sont très complexes, comme les prix de transfert. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est avancer très vite au niveau européen.
Voilà. Et donc, vous avez confiance que dans combien d'années ?
La question se posera plus. Vous savez, si réellement on a une volonté politique, on pourrait aboutir en 2 ans.
Ah ben voilà. Ça c'est une information.
Mais pas que la politique. Je vous parle pas de la politique, la volonté politique de la France. La France, elle l'a très clairement depuis 2012.
Ça dépend pas que de la France.
Voilà. Et on est 28.
Émilie Cariou, députée de La République En Marche de la Meuse, merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans ce studio pour ce journal qui s'achève avec la météo, un temps le plus souvent gris et humide, température 6 à 16 degrés, édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Stanislas Vazak.